Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette catéchèse que nous confions à la Vierge Marie en sa présence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'est-ce qui se passe pour que on se rue à ce point vers Jésus? Jésus descend de la montagne avec ses disciples, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il nous faut toucher Jésus parce qu'une force sort de lui et il guérit. Alors, on comprend bien sûr que cette démarche est sûrement mélangée, intéressée, très intéressée. Et en même temps, Jésus se laisse toucher. Il y avait par exemple cette femme, atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, et que nul n'avait pu guérir, qui s'approcha par derrière et toucha la frange du manteau de Jésus. Et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta. Jésus dit: Qui est-ce qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit: Maître, ce sont les foules qui te serrent et te pressent. Mais Jésus dit: Quelqu'un m'a touché. Et car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Se voyant alors découverte, la femme vint toute tremblante et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et il lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Voilà donc la personne de Jésus qui attire. On court vers Jésus pour l'entendre, déjà. Et puis pour se faire guérir. Pour le toucher, il faut qu'on le touche. L'entendre n'est pas suffisant. Il faut qu'on l'approche, il faut qu'on le touche. Alors, c'est juste une question de culture orientale? Non. C'est l'attraction du cœur qui s'empare de tout notre être. Et il faut qu'on marche, il faut qu'on court, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on réorganise nos journées, il faut aller voir ce Jésus. Parce que même si la démarche est mélangée, même si la démarche est intéressée, même si on prend Jésus pour pas forcément le Fils de Dieu, voyez, même s'il n'y a pas forcément une foi tout à fait pure, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est pourquoi Jésus se laisse approcher, parce que il voit derrière chaque personne de cette foule et non pas une foule sans nom. Chacun. Chacun est situé, chacun est créé, chacun est aimé par Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche au fond, c'est que tout le monde revienne vers lui. Ça passe comment? Eh bien, ça passe par Jésus, qui est le chemin vers le Père. Alors, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et Jésus est tout heureux de voir les gens tels qu'ils sont, là où ils en sont. Il ne demande pas un CV, il ne demande pas un pass, il ne demande pas Voyez, les diplômes, il ne demande pas déjà d'être saint pour venir vers lui, non? Il regarde le cœur de l'homme se laisser attirer. Car depuis la nuit des temps, cette nuit, non pas sainte, mais de ténèbres, voilà que le cœur de l'homme s'est fermé et est allé par ses chemins à lui, sous l'influence du démon, de sorte qu'il vit, mais en fait, il est mort. Il survit, mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Alors Jésus est la lumière du monde, le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Et la présence corporelle de Jésus dans un lieu fait que tout se réordonne et que voilà que nous sommes attirés par la lumière. On avait oublié, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est où? Ben c'est dans la Galilée des nations, lac de Tibériade. Capharnaüm et tous ces villages que Jésus va visiter, voilà que le cœur de l'homme qui était sous l'emprise démoniaque, se cherchant un chemin comme il pouvait, au milieu de beaucoup de désespérance, voilà que c'est la personne de Jésus qui va réveiller l'attraction profonde que nous avons dans notre cœur à l'égard de Dieu. Ce n'est que Jésus qui réveille ça. Ah, préparé par des gens comme Jean-Baptiste, les prophètes. Mais voilà que Jésus provoque dans le cœur de l'homme un renouveau extraordinaire. Déjà, le mouvement. Vous savez que le démon aime bien qu'on soit immobile. On a vu hier que le démon aimait bien qu'on soit muet, hein? Sourd et muet. Sourd à la parole de Dieu, muet dans la proclamation de ses merveilles, muet dans la louange et l'action de grâce. Et le démon aime bien qu'on soit immobile aussi, que le cœur ne bouge pas, encéphalogramme plat. Mais le fait est que quand Jésus passe, sur son passage ruisselle l'abondance, et que personne ne sera indifférent. Et que les gens vont aller vouloir voir et toucher. Alors il y a cette femme, il y a ces malades qui veulent le toucher. Toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a aussi ce beau passage dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 7. La pécheresse qui va braver beaucoup de choses pour aller chez le pharisien, Simon le pharisien, chez qui Jésus est là, invité, et puis elle apprend. Elle apprend qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un vase de parfum et se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers. Les oignaient de parfum. Ils étaient assis à la manière, vous savez, à l'ancienne, je ne sais plus si c'est la romaine ou la grecque, mais comme par exemple à la Seine, vous voyez. Ils n'étaient pas assis sur des chaises comme nous aujourd'hui. Ils étaient un peu allongés, donc c'est pourquoi. Voilà, elle vient par derrière et elle lave les pieds de Jésus de ses larmes et elle oint, elle couvre. Il y a plusieurs choses qu'elle fait. Elle arrose les pieds de Jésus de ses larmes. Elle essuie avec ses cheveux. Elle couvre de baisers les pieds de Jésus et elle les oint de parfum. Non mais franchement, qui est ce Jésus pour qu'il fasse, pour qu'il provoque tant de choses dans le cœur, de démarches? Cette femme, pécheresse, oui, mais une fille d'Israël qui doit rentrer à la maison du Père, qu'elle a quittée par son péché. Voilà que c'est en Jésus, elle apprend la présence de Jésus chez Simon le pharisien et ça la met en route. Ça la met tellement en route qu'elle ne vient pas toute seule. Elle vient avec son cœur contrit et avec son parfum. Avec ses larmes et son parfum. Et voilà que les pieds de Jésus vont être oints, vont être baignés de larmes, vont être essuyés par les cheveux, vont être couverts de baisers et oints de parfums. Qui est cet homme? Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous sommes dans cette catéchèse, cette petite série de catéchèses, de trois catéchèses sur le toucher, c'est la fin aujourd'hui. Et nous regardons ce que le corps du Christ provoque. La présence corporelle de Jésus. Nous voyons, alors les théologiens vont discuter, est-ce que c'est la même femme ou pas, est-ce que c'est Marie-Madeleine ou pas, bon, chacun a son avis là-dessus. Mais 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas, Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent non seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On voit donc que 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant que le Seigneur ne livre son corps, en instituant l'Eucharistie, en entrant dans sa passion le jeudi saint par l'institution de l'Eucharistie, Marie va poser ce geste à l'égard de son corps, le corps du Christ. Et Jésus va faire le lien entre sa sépulture et ce geste, parce que de fait, la petite Marie-Madeleine, elle pourra bien venir dès que le Shabbat est terminé, elle pourra bien courir vers le tombeau pour accomplir tous les gestes funéraires à l'égard du corps, du cadavre de son Jésus qu'elle aimait tant. Sauf qu'elle va être prise de court. Jésus ne sera pas dans un état cadavérique, mais il sera juste ressuscité et le tombeau vide. Elle n'aura même pas l'occasion de faire ce qu'il faut à l'égard de Jésus mort. Parce que vite, vite, il fallait le mettre au tombeau. Le soleil allait se coucher, le Shabbat, un grand Shabbat. Ils l'ont mis à la va-vite dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie. Mais elle a anticipé prophétiquement cette chère Marie-Madeleine, parce qu'elle s'est laissée attirer. Elle a obéi à son cœur, elle a obéi à Dieu en posant ce geste prophétique. Et en oignant les pieds de Jésus, Jésus va honorer ce geste. Encore une fois, nous voyons Jésus qui se laisse toucher. Il se laisse approcher par le pécheur qui se repent. Il se laisse toucher par les foules qui veulent le toucher. Il se laisse toucher par cette femme. Et puis il se laisse toucher dans la passion. Nous verrons dans la tradition du chemin de croix la petite Véronique qui viendra essuyer son visage. C'est la grande révélation. Dès la crèche, dès la nativité, Dieu se laisse toucher. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Venez à moi. Voilà que la sagesse a dressé la table. Les plats, les mets savoureux sont prêts, le festin des noces est prêt. Il faut juste que les invités à la noce répondent à l'invitation. Dieu a tout fait pour nous toucher. Nous avons vu hier à quel point Dieu a tout fait pour nous rejoindre. Quelle sera notre réponse? Alors, heureusement, il y en a qui répondent, qui écoutent leur cœur profond, se laissent enseigner par le Père et qui viennent à Jésus. Le pécheur se convertit, le pécheur se repent. Le pécheur comprend qu'il n'y a que en Jésus qu'il peut avoir la solution de sa vie, que dans la miséricorde de Jésus. Nous comprenons, frères et sœurs, que la lumière, la grande lumière de notre vie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le Verbe qui éclaire tout homme. Donc c'est lui le Verbe qui nous éclaire. Attention, frères et sœurs, à ne pas aller chercher d'autres lumières que Jésus. Attention. Et puis, on comprend que c'est en Jésus seul que nous trouvons le repos. C'est en Jésus seul que nous trouvons la guérison. La guérison de notre corps, de nos maladies, la guérison de notre péché. C'est en Jésus seul que nous trouvons, j'allais dire, notre vocation profonde. Car dans ce geste de Marie à Béthanie, c'est trop, de fait. C'était une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Ça montre qu'avec Jésus, nous ne sommes pas d'abord là pour bosser, vous voyez, pour travailler, pour la collaboration, hein, voilà. Pour être ses ministres, ses serviteurs. Nous sommes appelés par Dieu à être ses amis. Et dans l'amitié, il y a la dimension de la gratuité. Nous aimons gratuitement, sans en attendre de retour. Aristote déjà parlait de l'amour d'utilité, vous voyez. Des gens qui vous aiment parce que vous leur êtes utile. C'est l'utilité qui est la mesure. Et quand vous n'êtes plus utile, ben, au revoir. C'est un certain amour, si vous voulez, mais très imparfait. Dans l'amour d'amitié, que Jésus vient vivre avec nous, il y a la gratuité. Nous ne sommes plus intéressés par un résultat, nous sommes plus intéressés par une efficacité, une efficience, mais nous sommes juste là à célébrer gratuitement l'amour. De fait, ça donne une odeur, un parfum, et nous y reviendrons lorsque nous parlerons de l'odorat. L'odorat, le parfum, c'est lié à la finalité, c'est lié. Ça donne le sens, le parfum. La maison s'emplit de parfum. Et nous voyons donc la puissance de révélation qu'opère le corps du Christ. La puissance d'impact que Jésus a, vrai Jésus, vrai Dieu, vrai homme, mais par son corps. Son corps physique, son corps livré à l'Eucharistie, nous y reviendrons. Son corps dans la passion, qui va susciter la compassion, pâtir avec. Comment ne être indifférent à la passion du Christ? Comment être indifférent? Comment rester de marbre devant ce Jésus qui va souffrir par amour? Quand on aime quelqu'un, le voir souffrir suscite immédiatement la compassion. C'est-à-dire, on veut souffrir avec et on veut même souffrir à la place d'eux. C'est l'amour qui fait ça. Mais d'où vient cet amour? Ben de Dieu, de lui-même. Ce n'est pas nous qui nous nous efforçons à aimer Jésus comme on veut, comme on peut, non. Notre amour vers le Seigneur est toujours une réponse, est toujours second. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier. Et de fait, en le contemplant, Cela suscite en nous l'amour, cela suscite en nous la réponse, une réponse. Et toute la passion de Jésus va venir nous chercher dans nos égoïsmes, dans nos convoitises, dans notre individualisme, dans nos petits calculs, dans tout ce qui en nous n'est pas livré. Parce que Jésus est complètement livré. Il ne calcule pas, non. Une goutte de sang suffirait à sauver le monde. Mais toi, tu as gardé le vin jusqu'à le bon vin jusqu'à maintenant. C'est trop. Et puis, c'est trop. Oui, c'est trop. Ça s'appelle la passion du Christ. Ça s'appelle la surabondance. Ça s'appelle la miséricorde. Alors, nous voyons qu'à travers le corps du Christ, livré pour nos péchés, c'est tout Dieu qui vient nous toucher à travers la corporéité blessée de Jésus. Parce que nous percevons qu'à travers ces blessures se trouve notre guérison. Nous percevons qu'à travers ces blessures du Christ, ce sont des blessures d'amour. Le cœur droit, le cœur humble, le cœur du petit perçoit que dans la passion du Christ, il y a trop d'amour et que cet amour est pour moi. Cette blessure du Christ, cette épine sur de la couronne qui vient blesser sa tête, cette blessure sur son dos, sur son ventre, sur tout son corps, le corps du Christ, qui m'a touché? Qui m'a touché? Eh bien, c'est chacun de nous. Nous avons touché le corps du Christ, nous l'avons blessé. Il n'y en a pas un, frères et sœurs, qui n'a pas blessé le Christ, à part Marie. Ça s'appelle le péché. Le péché est d'abord une offense faite à Dieu. Et Jésus prend sur lui tout le péché, tous nos péchés. De sorte que qui est-ce qui m'a touché? Eh bien, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Jésus, blessé, nous répond, dans sa passion en particulier, à quel point la blessure est une fin en soi? Non. Non, la blessure devient une source. Les blessures du Christ deviennent des sources vivifiantes pour nous. Ce sont des lieux de refuge pour nous, où non seulement nous trouvons la guérison, la consolation, mais la force, toute la passion du Christ est d'une puissance, est une force incroyable pour nous, croyants, pour chacun de nous. Où nous pouvons aller puiser jour et nuit, 24 heures sur 24. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes envahis par les tentations, par des détresses, ayons recours à la passion du Christ, c'est le corps du Christ livré. Ceci est mon corps, livré pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit le psaume. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse. Alors nous voyons que nous avons besoin du corps du Christ. Dieu le sait tellement qu'il a institué l'Eucharistie. L'Eucharistie qui sera le mémorial, c'est-à-dire le faire mémoire, c'est-à-dire réellement présent, cette présence de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, dans son corps. Son âme, son sang, sa divinité, tout Jésus vivant, depuis sa conception dans le sein de Marie jusqu'à son ascension, en passant par tous les mystères de sa vie, en particulier son mystère pascal, tout Jésus nous est donné, tout le mystère de Dieu nous est donné dans le corps du Christ. Nous comprenons, frères et sœurs, que pour nous, lorsque nous parlons du toucher, Dieu continue à nous toucher d'une manière très particulière à travers l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, nous allons toucher, mais nous allons manger. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie en lui, celui qui n'a ne pareil, celui qui ne boit pas mon sang. De sorte que ce toucher va jusqu'à la manducation. Manger, mâcher, manduquer, avaler le corps du Christ. Sacramentel, je vous le signale, nous ne sommes pas des cannibales. Boire le sang du Christ. Mais c'est le vrai sang du Christ. Modalité sacramentelle. Mais c'est le sang du Christ, oui. C'est le sang du Christ d'il y a 2000 ans, oui. C'est le corps du Christ d'il y a 2000 ans, oui. Mais alors les enfants pourraient dire, mais c'est, est-ce qu'on mange des petits pieds de Jésus? Non, la modalité, elle est différente. Mais quand tu manges le corps du Christ à la messe, Jésus vient en toi et tu es en lui. Voilà qu'à la différence d'une nourriture ordinaire, dans la nourriture ordinaire, ce que tu manges, l'aliment devient toi, tu détruis l'aliment. La carotte que tu manges n'est plus carotte, elle devient toi. Mais dans cette nourriture divine, la nourriture, l'aliment n'est pas détruit, mais nous sommes assimilés. Nous sommes, c'est l'inverse qui se produit. Je communie au corps du Christ, je bois son sang, et c'est lui qui me prend en lui, et nous faisons un. Nous devenons lui. Non pas substantiellement. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, mais vitalement. Le corps de Jésus, eucharistique, qui se laisse toucher, approcher. Et dans l'Église catholique, nous avons cette grâce extraordinaire de pouvoir conserver la présence eucharistique, non seulement pour la garder pour la visite des malades et pour la communion aux malades, mais pour l'adoration eucharistique. C'est une grâce magnifique. Jésus a voulu, dans son Église, continuer à nous toucher à travers son corps eucharistique. De sorte que ce Jésus qui est dans l'hostie sainte et consacrée, c'est le Jésus des évangiles, c'est le même, il y a identité. Il y a identité entre ce Jésus de Palestine il y a 2000 ans, de Nazareth. Et ce Jésus Eucharistie, dans cette exposition du Saint-Sacrement que je vis dans ma chapelle, dans mon église, oui, dans mon tabernacle, oui. Combien d'hosties y a-t-il? 150. Combien de Jésus? Un. N'y a pas 150 Jésus. Il n'y en a qu'un. Et c'est ce Jésus réellement et substantiellement présent. C'est une présence qui demeure tant que les espèces ne sont pas abîmées, ne deviennent pas pourries, hein. Mais tant qu'elles sont en forme, j'allais dire, Jésus est là, présent. Si le corps du Christ, la réalité corporelle du Christ, physique, eucharistique, n'était pas importante, eh bien, le Seigneur n'aurait pas donné à son Église l'adoration eucharistique. Il se serait contenté, comme chez les orthodoxes, de cette présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie, mais consommée au moment de la célébration eucharistique. Éventuellement, garder un peu pour quelques malades, mais c'est tout. C'est une grâce de l'Église catholique que Jésus donne. Jésus livré, qui a tant d'amour à nous donner, et que nous laissons passer, comme ces passants qui passaient près du Golgotha, sans regarder. Alors il y a ce corps de Jésus ressuscité, présent dans l'Eucharistie, ressuscité, qui se manifestera à ses disciples jusqu'à l'ascension. Et voilà qu'après la Pentecôte, les apôtres seront saisis par le Saint-Esprit et ils deviendront la demeure de Dieu. Ils vont vivre l'Eucharistie, ils vont se mettre à célébrer l'Eucharistie, ils vont se mettre à communier au sacrement du corps et du sang du Christ. Ils vont être habités par le Christ, de sorte que ils vont être petit à petit christifiés et que voilà, chez par exemple Saint Paul et chez les autres apôtres, Dieu opère des miracles à travers leur propre corporéité. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Voilà qu'on voulait toucher Saint Paul comme on voulait toucher Jésus. Et si on ne pouvait pas le faire, eh bien au moins est-ce qu'on peut avoir un petit linge, un petit mouchoir que Saint Paul a touché, qui avait touché le corps de Saint Paul, de son vivant. Et alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Alors, il y aura aussi les reliques. C'est-à-dire que le sens de la corporéité, pour nous chrétiens, est très profonde. Notre corps est le temple du Dieu vivant. Et depuis tout petit, depuis ce jour béni où nous avons été baptisés, nous sommes devenus la demeure de Dieu. Et si nous avons reçu les sacrements, de messe en messe, de confession en confession, c'est non seulement notre âme, mais notre corps qui est visité à chaque sacrement, à chaque réception de sacrement, par exemple. C'est non seulement notre âme, mais notre corps qui est sanctifié. Il y a donc dans l'Église cette tradition qu'on appelle les reliques. Et nous avons le petit doigt de machine, le cheveu de machin, mais ce n'est pas à prendre à la rigolade. C'est que dès le début, nous avons reconnu que cette personne, devenue sainte, sanctifiée de son vivant ici-bas, elle a vécu la sainteté dans son corps. Et du coup, une fois morte, eh bien, cette corporéité est comme porteuse d'une puissance, d'une vertu divine. Et voilà qu'on va courir vers la vénération des reliques de la petite Thérèse, de Sainte Faustine, de Saint Jean-Paul II, etc., etc. Pourquoi? Voilà qu'on est comme dans l'Évangile il y a 2000 ans. Comment ça se fait? Ça se passe encore par le corps, la corporéité. Et alors, la petite Thérèse qui veut faire le bien, du bien, passer son ciel à faire du bien sur la terre, combien de bienfaits Dieu lui accorde de faire à travers ses reliques. Et les autres aussi, les autres saints, les autres saintes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, tout simplement, ça dit beaucoup de choses. Nous sommes une religion très incarnée. Et tous les sacrements, toute l'économie sacramentelle, que ce soit par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre, le mariage, la confession, l'onction des malades, tout ça, Dieu passe à travers des réalités sensibles. À travers des gestes, des paroles, dans la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit l'eau pour le baptême, par exemple, on plonge quelqu'un, c'est très concret ça. Très, hein? Confirmation avec le Saint-Crème. L'Eucharistie, j'en ai parlé, le sacrement de l'ordre, avec ses mains ointes des prêtres, mariage, confession, bien sûr, onction des malades. Nous voyons bien que le Seigneur, ayant institué tous ces sacrements, veut continuer à nous toucher par un contact humain, visible, sensible. Tout en étant du haut du ciel, mais Dieu étant Dieu, il veut continuer comme il l'a fait par l'humanité sainte du Christ. C'est toujours l'humanité sainte du Christ qui est cause instrumentale de la grâce. C'est toujours l'humanité sainte du Christ qui passe, qui nous avons de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. C'est toujours le Christ qui vient nous toucher par ses sacrements. Qui baptise? C'est le Père machin? C'est le diacre bidule? Non. C'est le Christ. Eh oui. Qui dit la messe aujourd'hui? C'est le Père machin ou le Père bidule? Non, c'est le Christ qui vient se donner à cette messe, à travers le Père machin, le Père bidule, oui. Le sacrement de l'ordre. Qui est cet homme qui dit des paroles in persona Christi? Ben c'est le Christ qui vient pardonner à travers ce pauvre prêtre. C'est le Christ qui dit je te pardonne tous tes péchés, c'est pas le Père machin. Il le dit, mais in persona Christi, c'est-à-dire que c'est le Christ qui le dit à travers lui. De même, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le Christ qui vient se livrer dans la messe, et bien sûr, le prêtre est invité à suivre le même mouvement. Et de même, l'onction des malades, c'est Jésus tellement attentif à la détresse humaine qui vient réconforter, qui vient unir à lui la personne malade pour lui donner sa force, son amour, sa consolation. Frères et sœurs, voici que la réalité du corps du Christ. Attirer à lui toute la foule, attirer à lui cette femme qui avait un problème de sang depuis 12 ans, elle avait été voir tous les médecins, ça marchait pas, même son état s'était empiré. Ce corps du Christ qui a reçu l'onction de Marie-Madeleine, ce corps du Christ reçu dans l'Eucharistie, Jésus vient s'emparer de ses humanités de surcroît que sont les êtres humains, et voilà que Saint Paul, les apôtres et les saints, nous, frères et sœurs, peut-être qu'il y en a parmi nous en ce moment qui auront des reliques qu'on viendra vénérer dans quelques années, je ne sais pas. Mais voilà que nous avons toujours ce réalisme très profond entre ce qui se passe du plus haut des cieux et qui vient me rejoindre dans mon humanité très concrète. Voilà, Dieu est grand, frères et sœurs, et ça passe par une réalité sensible, ça passe par un toucher, par une manducation, par un... Oui, la réalité sensible. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour terminer ce petit triptyque sur la réalité du toucher. Par le mystère de l'incarnation, le Seigneur nous montre à quel point il ne plane pas. Et la vie spirituelle, ce n'est pas planer. C'est de tout transformer avec la puissance de l'amour qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.